Les coquins soient démasqués, jugés.
Boulevard.
3, 2, 1. Bien le bonjour à tous. Bon mardi matin 27 février. Il y a des gens fébriles déjà sur le texto, sur Twitch. Merci d'être là. C'est un bonheur de vous accompagner dans l'heure CV. On s'installe pour une heure ensemble. Bien sûr, jusqu'à 11h, je suis avec vous avec plusieurs sujets d'actualité. Entre autres, aujourd'hui, bien, je vais parler avec Jérémy Guillot. On s'est jasé récemment au sujet de tout ce qui se passait avec le gouvernement de la CAQ, mais là, ce matin, coup de théâtre. En fait, coup de théâtre, mais quelque peu discret. Mais je ne sais pas si vous avez vu, on a envoyé comme ça sur le site du gouvernement une consultation publique. Bien là, drôle de consultation publique, là, elle est très particulière. Et je dis ça parce que j'ai des doutes quant à la récolte d'informations par rapport au projet de transport, au projet structurant dans la région de Québec, mais surtout le troisième lien. Là, le gouvernement Legault a lancé des consultations sur le web pour que vous puissiez dire votre opinion, donner de l'information, s'assurer qu'on vous consulte, justement. Le hic, c'est que les questions, je les trouve particulièrement orientées. Et je dis ça parce que l'une d'entre elles, entre autres, c'est est-ce que vous souhaitez un projet structurant entre la capitale nationale et Chaudière-Appalaches? Une affaire de même. On vous revient avec la question exacte, Jérémy, Guillaume et moi, dans quelques instants, là. Mais c'est sûr que tout le monde va répondre oui pour toutes les personnes prises dans le trafic le matin, pour toutes les personnes qui ont justement à circuler sur nos réseaux routiers, qui en arrachent des fois avec le stationnement. Tout le monde va répondre oui. C'est pas ça le point. Ça n'a jamais été le point à Québec. C'est qu'est-ce qu'on va faire et comment on va le faire? À quel prix on va le faire? Oh! Hein? Mais comme disait Hubert Védrine, on ne réécrit pas l'histoire même quand elle fait marche arrière. Puis ça fit un peu avec notre sujet d'aujourd'hui. Est-ce que la CAQ sera prise au sérieux avec ses consultations publiques? On peut se demander s'il y aura consultation publique en personne, justement, pour que vous puissiez faire valoir vos points, vos demandes, vos interrogations et certainement vos analyses personnelles, parce qu'on a besoin de vous, finalement. Vous serez ceux qui utiliseront ce genre de projet structurant. Si jamais il y a, là, je me demande si à 29 ans, un jour, je vais en voir un dans la ville de Québec. Hey, ça met la table. Bienvenue dans leur CV. Merci d'avoir choisi l'émission. 418-971-1021 si jamais vous souhaitez communiquer avec moi pendant toute cette heure-là. Et toutes les équipes, bien sûr, c'est la façon conjointe de nous rejoindre. Sinon, par Twitch, twitch.tv/blvd/fm. Vous pouvez toujours nous écouter sur l'application de Boulevard. Vous pouvez nous écouter aussi sur le site web. En fait, c'est pas seulement une radio, soit le 102.1. C'est aussi une radio web. Merci de nous avoir choisi. Puis Twitch, en passant, bien, c'est des caméras en studio. Si vous faites du télétravail, vous avez deux écrans, mettez ça sur l'un et travaillez sur l'autre. Vous aurez des collègues à la maison avec vous, soit toute l'équipe de Boulevard 102.1. Merci d'avoir choisi l'émission. Comme je vous disais, à moins 2 degrés aujourd'hui, bien, c'est une journée où vous pouvez, somme toute, profiter de l'hiver. Faites-le avant demain. Je dis ça parce qu'il y a 40 % de possibilité d'averse de neige aujourd'hui. Ce soir et cette nuit, on est à 3 degrés, 40 % de possibilité d'averse. Et ça sera pire pour demain. Je dis pire, mais les gens qui détestent l'hiver en ont un très clément, là. Mais demain, c'est que c'est de la brune intermittente ou de la pluie. Ça va faire en sorte que pour tout ce qui est sport d'hiver, il va falloir prendre un petit temps d'arrêt, là. Et ça risque d'impacter nos patinoires, d'impacter nos pistes de ski pour ensuite se refroidir à nouveau pendant 2 jours et revenir au-dessus de zéro, facilement au-dessus de zéro à partir de samedi. Pour dimanche aussi et lundi prochain. Donc, on est dans un genre de mère nature bipolaire là, ces jours-ci. Je ne sais pas quelle température elle souhaite nous donner. Ça ressemble un peu au printemps, mais il y a de l'hiver à travers tout ça. C'est particulier, c'est particulier. Les trois accords nous ont offert un super show au Centre Vidéotron vendredi dernier après le match des Remparts. Je ne les avais jamais vus en spectacle et je vous le conseille. T'sais, les trois accords, c'est un band qu'on écoute depuis des années puis qu'on se dit, ah, tu sais, les paroles, c'est un peu comique, mais ils sont divertissants, c'est dynamique. Ça fait du bien d'entendre ça, c'est léger, mais en spectacle, c'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment un spectacle musical. Il chante très, très bien, Simon, le chanteur. Ça sonne bien. Les instruments sur scène sont extrêmement clair et intéressant. Le piano, tout le monde y va. C'est pas juste un petit spectacle, honnêtement. Ça faisait danser tout toutes les personnes sur place, puis on en aurait pris plus. La chanson où j'ai pleuré de rire sur place au Centre Vidéotron vendredi face aux trois accords, c'est pas que je l'avais jamais entendue. Je l'ai entendue en masse ici, à Boulevard 102.1. Mais c'est juste que quand une gang de personnes se mettent à chanter « Vol à l'étalage », ça m'a rappelé quand on est jeune puis on chante du 50 Cent sans connaître les paroles. Bon, pas le même genre de paroles, là. Mais tout le monde chantait « Vol à l'étalage » comme si c'était quelque chose de normal. On va aller l'entendre.
Leur CV avec Pascal CV.
Il y a bien des auditeurs qui n'avaient pas vu ça aller. Hein? Le gouvernement Legault qui a lancé des consultations publiques, qu'on dit sur le web. Tout le monde peut aller répondre à un certain questionnaire sur le projet de troisième lien. Ça me fait rire comment on a écrit ça là, du côté du Journal de Québec. On dit sans tambour ni trompette, le ministère des Transports a mis en ligne un questionnaire pour recueillir l'opinion du grand public à propos de la mobilité dans la grande région de Québec. C'est pour Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches et les environs. Ça avait été promis, ça, par François Legault. C'était au lendemain de la défaite dans Jean Talon, rappelez-vous. Joël Boutin qui a quitté Jean Talon en fracas, là, parce que il n'était pas contente de faire partie de cette équipe-là. Sous la couverture, ce qui nous a été livré, c'est plutôt qu'elle voulait se concentrer à sa famille, mais ce n'est pas nécessairement les informations qu'on avait... qu'on avait eu là, en termes de rumeurs. Okay? C'est plutôt qu'elle était un petit peu fâchée de la position qu'elle avait au sein du parti de la CAQ. Mais bon, ça a donné la victoire au Parti québécois dans cette élection partielle dans Jean Talon. Et le premier ministre avait déterré la possibilité de ramener un troisième lien quelques heures après. On se disait tous, voyons donc, c'est toute une girouette. Là, finalement, vous aviez dit non, là c'est oui. Vous aviez dit oui, vous aviez dit non, là c'est oui. Est-ce qu'on croit encore la CAQ? C'est pas mal le sujet sur la question. Mais ce matin, voilà que sur le site du gouvernement, vous avez un beau questionnaire sur la mobilité dans la grande région. Des questions comme êtes-vous favorable à la mise en place d'un réseau structurant de transport en commun? Quelle proposition permettrait d'améliorer la mobilité? Un troisième lien routier avec ou sans voiture, avec ou sans transport en commun ou un mélange des deux? L'élargissement ou la construction d'axes routiers? Il y a quelques questions, mais seulement une infime quantité par rapport à réellement un projet de réseau structurant. Et bien sûr, on se pose des questions à savoir est-ce qu'il va y avoir assez de personnes qui vont aller y répondre. Geneviève Guilbeault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, dit qu'ils sont engagés à consulter la population sur la mobilité dans nos régions. Pour le gouvernement, ça serait primordial d'être connecté sur les besoins des citoyens pour prendre des meilleures décisions pour aujourd'hui et pour demain. Donc, on invite les résidents des deux régions à s'exprimer en grand nombre dans le cadre de la consultation qu'on dit simple et accessible. J'espère qu'il y en aura en personne, comme je vous disais. Et vous pouvez y accéder là, immédiatement sur le site du gouvernement. Il y en a un qui est au courant de ce genre de projet-là et qui l'analyse, qui a un parcours en politique connu également. Pour en parler, on s'en va rejoindre un collaborateur régulier à l'émission, Jérémy Guillot. Salut Jérémy, toi tu es directeur chez TAC, c'est sûr qu'un article comme ça t'a intéressé ce matin?
Ben oui, mais c'est surtout mon côté politique, hein, moi que ça vient chercher dans ce temps-là, une consultation publique qui se fait annoncer comme ça, sans tambour ni trompette. On lance ça ce matin sur le site de consultation publique du gouvernement du Québec. Et quand on fait l'exercice, je ne sais pas si tu as fait le questionnaire, Pascal, mais je suis allé le faire tantôt parce que j'étais curieux. J'ai été surpris par le peu d'informations qu'on nous demande.
Mais ça, tu as déjà fait ça, toi, dans le passé, par justement ton passé politique. Donc, quand tu l'as fait, ce questionnaire-là, tu étais un peu, déjà dans l'analyse, c'est ça qu'on comprend?
Bien, je savais que je m'en venais de parler, fait qu'il fallait que je me prépare un petit peu. Mais je me disais, on va me demander... quelles alternatives je préfère. On va me poser des questions sur le potentiel tramway, sur plus de transport collectif, sur est-ce qu'on veut du transport collectif dans ce potentiel troisième lien. Rien de ça. On nous a posé seulement des questions sur on est combien de personnes à la maison et qu'est-ce qu'on aimerait voir pour la mobilité à Québec et si on est satisfait de la mobilité à Québec. C'est à peu près tout. J'espère en tout cas que le gouvernement va voir d'ici le 22 mars, la date limite pour répondre au questionnaire, quelques consultations publiques en personne pour que les citoyens puissent donner davantage d'informations, parce que sinon, c'est pas très sérieux. Mais d'ailleurs, toute la saga du troisième lien pour le gouvernement est une épine dans le pied constante. Là, on se souviendra des conditions dans lesquelles tout ça a été annoncé après la défaite dans Jean Talon. Ça est un peu cavalier.
Oui, puis quand tu l'as fait, toi, ce questionnaire-là, je veux dire, t'es revenu au fait que c'était plus une collecte d'informations sur peut-être le nombre de personnes dans la résidence, sur, quelques informations par rapport au transport, est-ce qu'on en veut, est-ce qu'on n'en veut pas, mais qu'est-ce qui manquait de façon cruciale selon ton observation? Parce que dans le passé, t'en as déjà fait, toi, quand même, de la cueillette d'informations pour des projets. Je pense que t'étais avec les libéraux dans le temps. Y a-tu des précisions ou encore des différences flagrantes pour toi? Ça, t'as-tu l'impression qu'on remplit finalement les citoyens en faisant croire qu'on leur demande leur avis en ce moment?
Bien, je vais donner la chance aux coureurs. C'est peut-être le début de la procédure de consultation publique, mais c'est sûr que je me serais attendu, comme je disais un peu d'entrée de jeu, à davantage de questions et pas juste une petite case pour me dire qu'est-ce que je pense qu'on devrait ajouter. Et c'est ça. Ça aurait été le fun d'avoir des questions sur des options de transport collectif dans le troisième lien. Quel montant on pense que le gouvernement pourrait accorder à un projet comme celui-là? Parce qu'on sait, la dernière fois, on parlait d'un projet de 10 milliards de dollars. Mais est-ce qu'il y a toujours l'acceptabilité sociale derrière tout ça? Moi, j'aurais aimé voir un peu plus d'informations. Mais tu sais, Pascal, pour moi, là, c'est pas à moi de dire si les gens ont encore confiance ou non. Là. Léger sortait un sondage il n'y a pas si longtemps que ça. Il disait que 3 citoyens sur 4 dans la région de Québec ne croient plus que le troisième lien va se réaliser. Et c'est là que le bas blesse dans ce dossier-là.
Oui. Puis dans les questions, quand on le regarde, on voit, entre autres, considérez-vous qu'il y a un problème de mobilité dans les régions de la capitale nationale et Chaudière-Appalaches? Moi, quand je vois cette question-là, pour vivre à Québec depuis des années, pour suivre l'actualité depuis des années, avoir couvert le municipal longtemps aussi, elle est évidente, la réponse à tout ça. Les gens souhaitent un projet de mobilité ici à Québec, mais pas à n'importe quel prix et pas n'importe quel projet. Puis c'est surtout l'interconnexion entre les deux rives qui est crucial dans bien des opinions, dans bien des demandes de citoyens. J'ai un peu l'impression qu'on utilise cette question-là, entre autres, considérez-vous qu'il y a un problème de mobilité dans les régions de la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches, pour avoir un oui et se justifier peut-être d'aller avec un projet qui sera choisi finalement par tout le monde sauf les citoyens. Là. C'est malheureusement la critique que j'ai en ce moment face à ça. Et on a déjà vu ça de la part du gouvernement, aller chercher peut-être des réponses faciles pour consolider ce qu'on va présenter, peut-être comme projet gouvernemental.
Effectivement. Puis l'autre chose qui, moi, me surprend, c'est qu'on oublie les autres ponts à travers tout ça. Par exemple, le pont Pierre-Laporte, on sait, on a besoin d'un peu d'amour. Vous savez, il y a quelques années à Montréal, on a changé le pont Champlain. On a ajouté une voie sur le pont Champlain et on a ajouté une voie de transport collectif pour le REM au centre. Est-ce que ce n'est pas une option qui peut être regardée à Québec aussi? L'important, c'est que tout ce système de mobilité-là soit connecté. Et là, j'ai l'impression qu'on essaie juste de remplir une promesse qu'on a sortie à la va-vite après la défaite dans Jean Talon, alors que la défaite dans Jean Talon, si tu veux mon avis, moi, je ne pense pas qu'elle est reliée ou non à l'abandon du troisième lien. Parce qu'on n'est pas dans Chaudière-Appalaches, là, on est dans Jean Talon. Donc, moi, c'est toute cette séquence-là que je trouve particulière au gouvernement et qui fait en sorte que les gens n'y croient plus au projet. Ça fait combien de temps qu'à Québec, les gens se font promettre un troisième lien, et que ça n'arrive pas? Ben, c'est ça les résultats de ces promesses non remplies-là, les gens n'y croient plus.
Puis aussi, les gens sont comme habitués à ce que le gouvernement fasse ce qu'il souhaite, malgré le pourquoi ils ont été élus, en fait, les députés caquistes ici dans la grande région de Québec. Là. Ça, c'est vraiment la critique principale. Les citoyens se sentaient écoutés jusqu'au moment où on est allé en élection, on a gagné, puis par la suite, il y a beaucoup de promesses qui sont tombées entre deux chaises et qui touchaient principalement les gens de la région. Là. C'est ça qui est un petit peu déplorable pour... Quand je lis les textos, là, entre autres, récemment, quand on pose les questions là-dessus, c'est plutôt dans la confiance, oui, mais aussi dans l'abandon de projets structurants, de projets importants pour la grande région. Jérémy, pendant
que... C'est aussi ce qui explique la montée du Parti québécois dans la région dans les derniers mois, la dernière année.
Absolument. Puis écoute, pendant que je t'ai au bout du fil, je peux pas passer à côté de tous ces climats de tension dans les hôtels de ville, là, Québec, Lévis s'est sorti en fin de semaine aussi. On sait que la mairesse de Gatineau a démissionné. Elle est allée à Tout le monde en parle dimanche dernier pour parler justement de ça. Ce qui est un peu ironique, c'est que Bruno Marchand, lui, se fait accuser de pas gérer un climat toxique à l'hôtel de ville de Québec, mais commentait la démission de la mairesse de Gatineau en disant ben, on perd une grande femme de politique, ça ne devrait pas arriver. Ce genre de propos, en fait, qu'il a évoqué. Toi, t'analyses ça comment, tous ces départs de la vie politique municipale et ces climats toxiques-là qui sont identifiés par certaines personnes élues?
C'est sans précédent. Puis même l'année dernière, on vivait des climats d'intimidation. On a vu la FQM et l'UMQ sortir pour des programmes de soutien aux élus. C'est de plus en plus difficile de faire de la politique. L'information circule plus rapidement. Les réseaux sociaux sont extrêmement acerbes. On insulte ces gens-là très, très facilement. Même nous, aujourd'hui, on est en train de juger, de parler d'un projet de Geneviève Guilbeault rapidement. Tout va vite. Tout le monde a son opinion à dire, c'est correct. Mais des fois, ça se fait de façon pas toujours poli, disons ça comme ça pour être gentil, et particulièrement dans le cas des femmes. Moi, j'ai travaillé pour Dominique Anglade, j'ai travaillé pour Mélanie Joly. C'est toujours plus difficile pour les femmes en politique. Elles font face à des commentaires constamment misogynes, sexistes, à caractère sexuel. Ça, c'est de plus en plus vrai et c'est ce qui explique aussi le fait que c'est de plus en plus difficile de recruter des gens de qualité en politique. Et je pense que collectivement, il va falloir se poser la question à un moment donné, si on veut des gens de qualité, bien, il va falloir aussi peut-être changer nos attentes envers nos élus. On leur demande beaucoup, on leur demande d'être disponible 24 heures sur 24, on leur demande d'avoir une réponse à tout le temps, sur tous les dossiers, alors que toi et moi, on n'a pas cette réponse-là tout le temps, sur toutes 24 heures sur 24 à 5 minutes de préavis. Et bref, le climat politique au Québec, il est difficile. Et je pense qu'il faut entendre le cri du cœur des élus, là, comme la mairesse de Gatineau, l'ancienne mairesse de Gatineau qui a démissionné. Catherine Fournier a sorti une belle lettre ouverte à ce sujet-là. Il faut entendre ça, puis peut-être regarder comment on peut changer les choses. Puis même, il y a peut-être une partie de la responsabilité qui nous appartient à nous aussi.
Ah, absolument. J'en parle souvent en nombre de ça. Je trouve ça quand même important. C'est pour qu'on soit d'accord ou pas avec les idéaux politiques de certaines personnes ou des partis. Ça reste qu'ils ont le courage de se présenter, ce que nous, on ne fait pas nécessairement dans notre vie, puis qu'on ne souhaiterait peut-être pas non plus, mais il en faut des gens qui vont travailler pour la démocratie puis pour le peuple. Si on n'est pas d'accord avec ça, ben il y a toujours les élections pour essayer de faire passer ceux qu'on souhaite voir au pouvoir. Mais au-delà de ça, Jérémy, entre eux aussi, il y a quelque chose de particulier qui se passe. Je sens qu'il y a un clash de génération au niveau de la façon de faire de la politique. Peut-être qu'il était plus émotif dans le temps, maintenant un plus grand professionnalisme côté gestion de dossiers. En même temps, ça dépend de tous et chacun, mais il y a vraiment quelque chose à Québec et à Lévis qui est dénoncé en ce moment au sein même des hôtels de ville, comme quoi entre députés, entre élus, en fait, il y a problématique là, de violence verbale et même physique à certains égards, là.
Mais ça, c'est inacceptable et je pense que peu importe la situation, on doit toujours dénoncer cette violence physique, verbale, autre, attaque personnelle. C'est la responsabilité des élus, des maires, mairesses de dénoncer ces comportements-là et de mettre des mesures en place, des mesures de soutien en place pour les élus.
Si on le fait pas, est-ce que c'est un manque de leadership?
Pardon?
Si on ne le fait pas, est-ce que c'est un manque de leadership?
Bien, si on dénonce pas, ça, là, je vais sortir de la politique, mais dans la vie de tous les jours, si un gestionnaire ne dénonce pas une situation de violence verbale ou physique dans son organisation, c'est un manque de leadership de façon générale. Et c'est pas juste applicable en politique.
Non, assurément dans nos vies aussi. Merci beaucoup, Jérémy Guillot, qui est directeur chez TAC. On se reparle la semaine prochaine.
Merci. Bye-bye.
Intéressant d'entendre Jérémy sur le sujet. Vous comprendrez que moi, je
le « del leadership » qui était très, 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 très important, je trouve, dans plusieurs dossiers politiques au courant des dernières semaines. Un manque de leadership, là, c'est concret, en fait, quand on voit les maires ou encore les premiers ministres ou encore les dirigeants d'entreprise qui ne peaufinent pas nécessairement cette qualité à avoir lorsque tu es à la tête d'une hiérarchie, d'une organisation ou encore, bien sûr, d'une province ou d'une ville. Je pense que c'est extrêmement essentiel pour pouvoir ces postes-là. Et c'est souvent oublié, hein, tu sais, un gestionnaire X se voit attribuer justement, une personne, un employé, se voit attribuer un poste de gestionnaire, mais souvent sans les compétences requises, juste parce que c'était peut-être le meilleur vendeur, le meilleur dans la créativité, dans les idées. Bien, souvent, ça n'aide pas nécessairement l'entreprise par la suite. Puis on peut le voir aussi à la tête de la direction d'une ville en ce moment, ce qui se passe. C'est quand même fascinant à Québec et à Lévis. Bon, il y a des langues qui se sont déliées, mais bon, il va falloir continuer d'enquêter là-dessus puis se positionner aussi en question. Si on revient avec la consultation publique sur la mobilité dans les régions de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches. Il y a eu des questions pendant l'entrevue. Entre autres, on me demandait est-ce que tout le monde peut répondre? Est-ce que Gérard de Montréal peut répondre? La réponse à ça, c'est oui. Sauf qu'on vous demande d'où vous venez, mais vous pouvez mentir. Fait que là, vous comprenez que ce n'est que des cases à cocher. Ce n'est pas quelque chose qui est extrêmement scientifique. On peut le faire plusieurs fois aussi. Puis c'est juste des petits carrés, là, comme je vous en pose une, mettons. Que faudrait-il améliorer pour que vous considériez utiliser un transport en commun plus souvent? Et là, on vous offre des réponses. C'est pas nécessairement qu'une... En fait, il n'y a pas de cases pour développer sur votre idée. On dit ajout de lignes d'autobus, ajout de lignes d'autobus express avec un nombre d'arrêts limité, ajout d'un moyen de transport en commun, augmentation des fréquences de passage des autobus, par exemple. Je ne suis pas intéressée par le transport en commun. Il y a tout de même une petite case dans laquelle vous pouvez écrire, là, mais c'est majoritairement des réponses que vous cliquez. Donc, oui, n'importe qui au Québec peut répondre. C'est ce que j'ai vu en faisant le questionnaire. Très facilement accessible, tapez « consultation publique sur la mobilité » sur Google, puis ça va vous amener certainement au site du gouvernement. Il y a des gens qui disent une des questions qui concerne l'élargissement de routes est désolante. Pour moi, c'est désolant parce qu'il est prouvé, selon la science, que le trafic induit cause plus de circulation à long terme. On pense pourtant qu'élargir une route serait positif, mais hélas, c'est contre-intuitif. Des gens aussi qui s'inquiètent que ce soit la seule consultation qu'on fasse auprès des citoyens pour la suite des choses. Est-ce que de revamper le pont complètement, le pont de Québec ou le pont Pierre-Laporte, en faisant un nouveau, en réglant justement la structure qui est défaillante puis mal entretenue depuis des années, pour en faire un nouveau projet serait la solution? Il y a beaucoup de choses à envisager, mais ça ne se fera pas seulement avec un quiz sur le web, et ça, c'est certain. Je pense qu'on ne peut pas être contre la vertu, mais je pense qu'on peut ajouter des moyens aussi pour se faire entendre. Je me souviens d'avoir été aux consultations publiques du tramway et de bien des projets dans la ville de Québec. Puis c'est toujours des exercices très exigeants mentalement pour les gens qui récoltent les données, qui écoutent tous les témoignages, mais extrêmement pertinent, par exemple. Et si ça arrive ici, à Québec et dans Chaudière-Appalaches, avec le gouvernement de la CAQ, au sujet du troisième lien, au sujet d'un réseau de transport structurant ici à Québec, il va falloir participer en grand nombre, il va falloir y aller tout le monde ensemble.
C'est payant des CV avec Pascal CV.
Ah, j'aime ça, vos commentaires. J'adore ça. Des gens qui sont allés faire le questionnaire sur la consultation publique, qui me reviennent avec leur façon de voir les choses, avec comment, justement, ils ont interprété cette consultation publique web-là. Quelqu'un qui en parle aussi, tout simplement, du projet en disant que la priorité devrait être l'accès au pont. Le fameux spaghetti là, cause bien des problématiques. Quelqu'un d'autre, on n'a pas l'argent pour bien entretenir nos routes, alors pourquoi faire un nouveau lien? Ça va juste empirer le problème. Si vous avez quelque chose à dire, c'est toujours... le commentaire bienvenu partout sur nos plateformes. Il y a Loi qui dit on devrait poser des questions lors des élections. Comme dans le tramway, ça permettrait d'avoir le vrai pouls. En même temps, ça forcerait les partis à publier les résultats, même si ce n'est pas ce que les politiciens veulent. Ah, oh, mon Dieu, moi, je pense qu'on a tenté dans la dernière course, dans la dernière élection, mais qu'on n'a pas eu nécessairement ce qu'on devait avoir parce que finalement, on a changé de cap après être élu du côté de la CAQ et on a rechangé de cap après avoir perdu Jean Talon. C'est pas très bien vu en ce moment dans le public et dans les citoyens. La pénurie de main-d'œuvre fait beaucoup jaser depuis hier aussi. Le fameux projet pilote pour les 60 à 69 ans qui se voit comme finalement un coup d'épée dans l'eau, là, d'offrir des formations gratuites aux entreprises qui veulent engager des 60 à 69 ans. C'est pas nécessairement aller cerner le problème selon bien des gens. C'est les avantages fiscaux ou encore les déductions fiscales qu'on pourrait avoir qui pourraient les attirer à aller travailler et non nécessairement d'avoir des formations en entreprise là, pour changer la donne. La guerre des trafiquants aussi fait beaucoup jaser à Québec. Encore aujourd'hui, l'on dit qu'il y a un gang de rappers lié au caïd Dave Pick Turmel qui est toujours dans la mire de la police. Il y a, bon, on les appelle les membres des Vikings. Je dis ça parce qu'il y a un Z à la fin, là, qui font l'objet d'une enquête en marge des récents événements violents dans la région de Québec. Là, il y a ce gang criminel qui regroupe des rappers que, honnêtement, j'ai jamais entendu parler de ces gars-là. Là. Je ne sais pas si ils ont bien du succès ou sont sur Spotify, là, vous me direz. Mais c'est des rappers qui font l'apologie de la violence dans leurs chansons, on est surpris, et qui, justement, feraient partie de cette gang à Pic Turmel et qui auraient, justement, attaqué des gens et auraient été très, très violents. Puis on va mettre le grappin dessus le plus tôt possible. Malheureusement, pour les fans de musique de ces gens-là, ça se peut qu'il y ait une petite trêve là, dans les fameux classiques et les hits qu'ils nous ont offerts dans les dernières années. Incroyable, hein, gang de rappers qu'on ne connaît pas à Québec qui, finalement, font dans la violence. Les policiers recherchent aussi des victimes. Quant à moi, ça s'est pas passé à Québec, mais je veux vous en parler parce que en lisant le titre, c'est pas mal. Le résultat de l'horreur qu'on peut croire si on a une phobie des clowns. Les policiers cherchent des victimes d'un ex-clown. Agression sexuelle sur plusieurs enfants. Le gars s'appelle Julien Bouchard. Ça s'est passé, selon les informations des policiers, probablement dans les années 90. L'homme de 64 ans a fait 3 victimes dans le passé et il est accusé d'avoir agressé sexuellement 2 enfants dans les années 90 et il aurait fait d'autres victimes selon les policiers. Donc, on recherche justement ces potentielles victimes-là. Un clown, c'est épouvantable, c'est un film d'horreur. On dit qu'à l'époque, il multipliait les emplois pour lui permettre d'être en contact avec des mineurs. Il agissait notamment comme clown pour des fêtes d'enfants, chanteur dans des célébrations religieuses ou guide de kayak. Il a plaidé coupable à plusieurs chefs d'accusation en matière de contacts sexuels en juin 99 au palais de justice de Salaberry de Valleyfield pour avoir agressé 3 enfants. Et ces enfants-là étaient des enfants d'amis ou de proches. Souvent, c'est ça. Hein? C'est quelqu'un qui est près de la famille. C'est épouvantable, j'essaie de le dire, mais ça arrive souvent dans ces contextes-là. Et il avait été condamné à une peine de 6 mois de prison. 6 mois. OK? C'est pas grand-chose. Une probation de 2 ans. Ça, c'est les informations du Plumitif qui est informatisé, là, qu'on a réussi à lire. Mais en janvier 2024, Julien Bouchard a été accusé de 4 chefs d'accusation d'agression sexuelle et de contact sexuel sur 2 enfants de moins de 14 ans. Et ça, c'est des faits qui seraient survenus entre 96 et 98 à Saint-Bruno-de-Montarville. Puis les 2 fillettes étaient encore des enfants de son entourage. Mais là, on a mis sa photo partout. Puis on se dit, peut-être que c'est pas tout. On veut savoir s'il y a d'autres personnes qui ont le courage d'aller dénoncer le clown agresseur, je veux dire de même, parce que je veux dire, il a déjà été condamné, puis accusé, puis coupable en fait de certains gestes. Là. Donc, si vous étiez dans le secteur où vous pouvez connaître des gens, ou encore qu'il y a quelque chose qui vous est arrivé dans votre vie, honnêtement, vous êtes extrêmement courageux, puis bravo de dénoncer, même si la personne ne fait pas l'actualité. Puis si la personne fait l'actualité, profitez-en pour vous allier avec d'autres victimes, malheureusement, pour justement vous libérer de certaines choses. Un article très intéressant dans la presse ce matin, les deux côtés de l'amitié au travail. Avez-vous des amis au travail? 418-971-1021. Est-ce de vraies amitiés ou est-ce des collègues avec qui vous vous entendez bien? C'est un excellent texte de Maude Goyer. C'est une collaboration spéciale et on en parle avec beaucoup d'intelligence. On dit que, bon, riche et nourrissante, les amitiés au travail motivent, fidélisent, font baisser le stress, rendent plus créatifs et plus performants. Donc, elles multiplient le plaisir et le bonheur d'être au boulot. Mais des fois, il y a un côté sombre et on l'applique, on en parle et on l'analyse. Parce que ces amitiés-là peuvent devenir malsaines, voire toxiques. Les experts, soit des psychologues, disent d'y aller avec parcimonie et prudence. On dit que oui, ça améliore la qualité de vie au travail, mais que les dessous de tout ça peuvent être très, très négatifs. Bon, soyons pas pessimistes aujourd'hui, mais c'est intéressant, je trouve, comme dossier. On dit que ces amitiés-là, quand ça vient avec la compétition, entre autres, ben dans un métier qui est peut-être difficile où il faut sortir du lot, être très performant, avec un rendement, ça peut être complexe. Et on cite une étude de la firme américaine Gallup qui indique qu'avoir un meilleur ami en milieu professionnel, c'est un gage de sécurité dans le secteur de la construction. Il y a moins de morts sur les chantiers. Et c'est un peu comme si l'ami disait « Fais attention, attache-toi, je tiens à toi au quotidien ». Par contre, dans le sondage, on dit que seulement 20 % des adultes ont déclaré avoir un meilleur ami au travail et que des fois, ça minait en fait justement la performance de tous et chacun. Puis des fois, dans des façons un petit peu insidieuses, du genre, j'aime tellement mon ami que je sais qu'il veut cette promotion-là, je la veux aussi, mais là, je suis mal, je ne veux pas entrer en compétition avec mon ami, collègue, donc je vais lui laisser, tu sais. Je vais me mettre de côté professionnellement, je vais lui laisser ou encore avoir une peur, une crainte de représailles en arrière de ça. C'est vraiment très intéressant comme texte, comme analyse. On dit que les conséquences positives de liens forts avec les autres ne sont pas surprenantes, bien sûr, quand on regarde ça, c'est des besoins de base de l'humain, là. Mais on a trois besoins innés et universels et c'est reconnu par 164 pays. C'est l'autonomie, le sentiment de compétence et de l'appartenance sociale. Donc, on parle pas seulement au travail, mais dans la vie en général. Et le fait d'avoir justement collègues, amis, ça peut aider à tout ça parce qu'on passe majoritairement notre temps avec les collègues. Il faut faire attention. On rappelle toujours qu'il faut faire attention parce qu'il vaut mieux apprendre à bien connaître les gens avant de choisir de s'ouvrir à eux, surtout dans un contexte professionnel, parce que certaines personnes qui peuvent être mal intentionnées, utiliser les informations qu'on leur a confiées contre nous et il peut y avoir manipulation, interactions aussi qui deviennent toxiques. Ça, c'est selon la psychologue Cynthia Mathieu. Elle est psychologue industrielle, donc vraiment en entreprise et professeure à l'école de gestion de l'UQTR. Et on rappelle, dans le fond, que c'est important d'avoir un réseau social, mais qu'il y a un facteur de protection à ne pas oublier. Parfois, on l'a dans notre vie personnelle, mais on oublie au professionnel et c'est là aussi vraiment, vraiment, vraiment important. Il y a un certain Hugo qu'on décrit comme chargé de projet dans une grande boîte de publicité montréalaise qui, lui, dit avoir payé le prix d'un attachement amical à une collègue. Il dit que c'est confié sur ses ambitions et que cette collègue-là nourrissait secrètement les mêmes ambitions. Et quand elle a eu le poste, ben ça a tout brisé pour Hugo. Il dit, il y a 37 ans environ, là, il dit qu'il a été doublement déçu parce qu'il n'a pas eu sa promotion et il a perdu son amitié et s'est senti trahi. Il dit, j'ai appris, moi, c'est terminé les liens avec mes collègues. Il y en a qui sont très drastiques hein, quand ils vivent une situation difficile. Puis c'est correct quand tu as été déçu de ne pas retourner vers quelque chose qui t'a fait très mal. Mais justement, quand tu as eu un peu d'abus autour de toi, ben ça fait en sorte que peut-être tu te protèges, que tu as monté des murs, qu'il faut les abaisser tranquillement, que ça prend du temps. Mais vraiment intéressant, je vous le conseille, le texte, puis je sais que ça vous fait déjà réagir. Entre autres, des gens qui disent « Oui, moi, j'ai une amie, c'est même plus qu'une collègue. Finalement, c'est devenu ma sœur à travers le temps. Moi, je travaille sur la route seule maintenant et quel bonheur. Je pense pas que c'est quelqu'un qui a trippé à avoir des collègues. Quelqu'un qui dit « Moi, j'en ai besoin des amis au travail, sinon ce serait complètement absurde d'aller travailler. Ma gang, c'est ma vie aux professionnels parce que justement, je les vois plus que ma propre famille. Mais dans le temps, bon, quelqu'un qui se confie, mais dans le temps, je me suis fait avoir par une ancienne collègue qui justement a abusé de ma bienveillance auprès d'elle pour s'assurer que je me sente en sécurité dans mes confidences et qu'elle s'en serve contre le patron. 88-971-1021 si jamais vous voulez vous confier aussi là-dessus. Émile Bilodeau et l'amour au temps de la fin des temps à Boulevard 102.1. On revient dans un instant.
J'ai six cerveaux, en fait.
L'heure CV avec Pascal CV.
Boulevard 102.1.
Il y a Maryse qui nous disait pendant la chanson d'Émile Bilodeau, j'ai une amie au bureau, mais c'est pas ma meilleure amie parce qu'on ne sait jamais vraiment comment les gens sont au bureau, en fait. Généralement, on le découvre suite à un événement négatif. Donc, je me garde une réserve avec l'ami au bureau et encore plus avec les collègues. J'ai été huissier, donc je fais une coupure facilement entre la job et le personnel. Mes meilleurs amis ne sont pas dans mon domaine de travail. Et ça, il y en a qui font vraiment cette coupure-là de façon très stricte. Hein? Les collègues, ce sont les collègues et ma vie personnelle, c'est ma vie personnelle. Quand tu es un gestionnaire, ça, je peux le comprendre pour pas qu'il y ait nécessairement d'ambiguïté. Mais je ne sais pas comment ça se passe, vous, au bureau avec vos collègues. Est-ce que vous avez cette rigidité-là ou encore vous laissez bercer par les rencontres? Dans l'actualité, il faut quand même parler d'un incendie d'origine électrique là, qui a détruit une maison dans Sainte-Foy. En fait, c'est sur la rue de Fontenay. Toujours, oui, comme je vous dis, à Sainte-Foy, ça a été un gros incendie, lourdement endommagé, une résidence. Le brasier a pris naissance dans un rangement au fond de l'abri d'auto. Alors, le commissariat aux incendies a déterminé que c'était plutôt électrique. C'est peut-être une rallonge électrique là, qui ne devait pas être utilisée comme elle était utilisée et installée de façon permanente qui a pris en feu et qui a causé l'incendie. Ça n'a rien à voir des fois avec le manque de vigilance des gens, mais parfois c'est le manque d'éducation quant à l'utilisation de certains éléments comme une rallonge, un fil de cellulaire, un cellulaire dans le lit branché, comment se départir de cendres, comment utiliser l'huile sur la cuisinière si jamais ça s'enflamme, qu'est-ce qu'on met par-dessus. Les pompiers, le service d'incendie de la Ville de Québec a différentes capsules sur leurs réseaux sociaux super intéressantes qu'on devrait, si on ne sent pas le besoin en tant qu'adulte, d'aller les consulter, le faire avec nos enfants. Tu sais, ça reste dans notre tête quand on est enfant, puis finalement, on s'en souvient à l'âge adulte, et ça amène beaucoup de positif quant à la réaction dans certaines situations d'urgence. Mylène Moisan du Soleil a fait une excellente chronique qui s'appelle « Les règles, c'est pour les autres ». C'est par rapport au code de la route qui est formel. Il est obligatoire pour tous les automobilistes de porter la ceinture de sécurité. Sinon, c'est une amende de plus de 300 $ incluant les frais, en plus de perdre 3 points d'inaptitude. Et le ministre Pierre Fitzgibbon a reconnu de façon très candide à la fin août qu'il la bouclait juste quand il y a des grandes distances à faire et pas pour des petites. Donc, il enfreint la loi. Et c'est quand même un aveu qui était surprenant quand on se rappelle aussi, je sais, ça va venir, vous allez me l'écrire rapidement, des photos de Geneviève Guilbeault, ministre des Transports, mentionnons-le, qui est tout sourire dans des véhicules sans sa ceinture et bon, qui dit c'était des oublis, ça avait fait beaucoup, beaucoup jaser. Donc les règles, est-ce que c'est pour les autres? Et là, il fait un parallèle avec, 3 mois plus tard, là, 3 mois après l'affaire des ceintures de sécurité, le ministre des Finances, Éric Girard, qui a annoncé, je vous rappelle, on en a reparlé récemment, la venue des Kings de Los Angeles à Québec pour disputer 2 matchs préparatoires l'automne prochain. Et on annonçait qu'on avait dépensé entre 5 et 7 millions de dollars, hein, de l'argent public, en pleine négociation avec des fonctionnaires pour ces matchs-là. Pour attirer les millionnaires du hockey, le gouvernement a décidé de bonifier le fonds de 5 à 7 millions de dollars et de l'étaler sur 2 ans. Le hic, c'est que les Kings de Los Angeles s'en vont jouer ailleurs pour rien, pour aucun bidou, puis même qu'ils ont dit « on va revenir aussi souvent que vous le souhaitez ». On a du fun, nous autres, à se promouvoir un peu partout. Et il y a eu, aussi toute la saga des contributions demandées à des parents endeuillés pour rencontrer la ministre Guilbeault, le 200 $ là, pour 4 minutes qui avait été demandé par le cabinet de Mme Guilbeault, Geneviève Guilbeault. Et là, on a dit qu'on n'était pas au courant, que la proposition a été faite par un membre de son personnel qui donnait l'impression de vendre un forfait qui contrevient, on le sait, à la loi électorale. Donc, pour qui sont les règles? Et c'est un peu ça, la chronique de Mylène Moisan, qui expose à travers le temps, à travers la dernière année, quelques disparités entre ce que les ministres, parce que c'est des ministres qui sont pointés du doigt dans l'article, font versus ce que nous devons faire en tant que citoyens. Et il y a peut-être à voir là-dedans, dans tout ce qu'on est en train de penser par rapport à la politique. Et Jérémy Guillot, qui était avec nous, directeur chez TAC en début d'émission, abordait l'importance en tant que citoyen de ne pas dépasser les limites du respect dans nos interactions par rapport aux agents en politique. Le hic est que quand on voit ce genre de situation-là, moi, je suis absolument d'accord avec Jérémy parce que je l'ai plaidé souvent en onde, qu'il faut avoir un respect pour les gens qui se présentent parce que nous, on ne le fait pas. Et si on veut de la démocratie, ben, faut continuer à les appuyer, du moins selon vos allégeances politiques. Je ne dis pas d'appuyer un parti qui ne vous rejoint pas, mais de ne pas déborder dans l'insulte, dans les menaces. On voyait plutôt ça rarement là, auparavant. Il y avait du respect un petit peu plus social qui est intégré dans les valeurs des familles québécoises. Peu importe si tu étais en désaccord ou en accord avec une personne, il y avait un certain respect à y avoir humainement. Ça peut être changé un peu avec tout ce qui est réseaux sociaux, on en parle, on est plus caché derrière nos écrans, mais il y a à considérer dans l'eau que ces gens-là se sont présentés, se sont fait élire. Et si on n'est pas d'accord, on peut toujours faire valoir notre point, mais tout dépendant comment on en parle, comment on le dit. Mais je comprends que par la chronique aussi de Mylène Moisan dans Le Soleil aujourd'hui, on peut un peu être sceptique quant au respect qu'ils ont pour nous, au respect des règles qu'ils nous demandent de suivre face à eux et comment aussi ils s'en sortent publiquement en disant oh, c'est un oubli, je voulais pas, c'est une fois que c'est arrivé. Pas, et je sais que vous avez certainement, tout comme moi, bien de la misère à avaler ce genre de choses-là. Est-ce que les règles sont pour tous? La réponse est oui. Est-ce qu'ils ont un rôle à jouer aussi dans ce qu'on voit de la politique et la confiance qu'on porte et le scepticisme aussi par rapport à le fait d'être humble et d'être là-bas pour les en politique pour les bonnes raisons? Je pense que vous avez raison quand on lit une chronique comme celle de Mylène Moisan. Il faut se réveiller aussi quand on a un certain pouvoir. C'est absolument important. Gratuit à Salt Lake City, c'est ce que je retiens le plus dans les dernières heures par rapport aux Kings qui s'en viennent nous voir au Centre Vidéotron pour 5 à 7 millions de dollars. L'argent des contribuables. Est-ce que les ministres la dépenseraient de la même manière que leur argent? C'est toujours la question de Yannick Marceau, que ce qu'on voit avec les finances publiques. Hey, j'ai trouvé un livre d'insultes. Je vous le dis, là, c'est vraiment particulier. Un livre d'insultes, ma foi, très aiguë. Insultes et injures. Avoir le dernier mot. Ça a été publié en 2011 et ce n'est plus publié. C'est retiré, en fait. L'éditeur, c'est Québécois. On dit que c'est une collection d'humour. Mais est-ce que ça passe ou ça casse? On va en parler dans Marceau le midi un peu plus tard. Je pense que ça a été retiré pour une raison très, très évidente. Le genre de joke qu'on voyait auparavant là, en humour pendant quelques années et qui était stridente, mais je ne pense pas que ça devait être encore publié. Vous allez comprendre pourquoi. Je peux vous donner une idée, là. C'est par section, comment insulter des gens. Entre autres, il y a une section, c'est insulte aux gros et aux grosses. Une autre section, c'est insulte aux filles prépubères ou anorexiques ou blondes. Et il y a une autre section aussi, c'est comment justement insulter foncièrement une personne qui ne le mérite pas. Je vous le dis, 2011 que ça a été publié. C'est en français. Ça a été publié sous l'éditeur de Québécois. On dit que c'est loisir et humour en termes de catégorie. Il y a 160 pages d'insultes pour avoir le dernier mot. Fort à parier, ça va vous faire réagir un peu plus tard. Quelqu'un qui dit « No way, faut l'acheter maintenant, ce livre-là. » Bonne chance pour l'acheter. Auparavant, 3,97 en papier. Maintenant, 33,83 si jamais tu es capable de mettre la main dessus. Et ça, c'est si vraiment tu es capable de mettre la main là-dessus. C'est un livre qui a arrêté d'être publié, qui a été sorti de la collection. Et quand vous avez une experte comme moi des marketplaces ou des ventes de garage, je vous ramène des livres avec toute qu'une histoire en onde. Je vous le dis, il va falloir mettre un avertissement là, dans ce segment-là parce que je ne veux pas perdre ma job pour ça, mais je vais vous exposer à quel point certaines choses changent dans la société. Sarah Dufour, je ne sais pas ce qu'elle a vécu dans les dernières années, mais ça l'a clairement inspirée à nous en parler, à faire une chanson comme « Je m'en vais dans le bois ». Rupture, assurément. Difficulté émotionnelle aussi. Sa façon de brasser tout ça, de procéder tout ça, ça a été d'aller dans le bois. Elle vous en parle dans sa chanson qu'on ne passe pas souvent ici à Boulevard 102.1, mais qu'on vient mettre justement dans le cartable de musique franco. Moi, je vous laisse là-dessus. Profitez bien de la journée. Actuellement, c'est moins 1 degré à Québec. Et on se retrouve dans Marceau le midi dans un instant. Restez là. Merci d'avoir choisi leur CV aujourd'hui.